Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien.
Alors, chers enfants, on est donc réunis ici, dans le sanctuaire de Bétharam, pour préparer la profession de foi. Le verbe « professer » veut dire que je vais dire officiellement dans l'Église la foi que je comprends, la foi que j'ai en mon cœur, en mon âme, et la foi que je dois être capable d'annoncer. C'est le sens de ce petit geste que nous faisons au commencement de la lecture de l'Évangile. Un premier signe de croix sur le front pour demander au Seigneur que nous puissions comprendre l'Évangile que nous allons entendre. Un second signe de croix sur la bouche pour qu'on soit capable de l'annoncer, de le dire aux autres. Et un petit signe de croix sur notre cœur pour que nous puissions, comme la Vierge Marie, conserver et méditer tous les événements de la vie du Seigneur. Alors, professer sa foi, c'est ce que vous allez faire dans l'Église. Pourquoi ? Parce que vous avez été baptisés en étant de tout petits enfants, qui ne savaient pas encore parler, qui ne connaissaient pas encore le catéchisme. Et donc, maintenant que vous arrivez à l'état d'adolescent, vous allez dire « La foi dans laquelle j'ai été baptisé alors que j'étais un nouveau-né, la foi qui était celle de mon père et de ma mère, la foi qui était celle de mon parrain et de ma marraine, eh bien voilà que je l'embrasse à mon tour. C'est également ma foi, sous-entendu, j'adhère à la foi de mon baptême. » Et cette foi, elle est contenue dans deux déclarations importantes dans l'Église. Un premier credo que vous avez au dos de la feuille, que l'on appelle le credo des apôtres, et le second, à l'intérieur de la feuille, qu'on appelle le credo de Nicée-Constantinople, le nom de deux villes dans lesquelles se sont réunis successivement les conciles. Le concile de Nicée, puis le concile de Constantinople. Alors commençons par le credo des apôtres. Vous voyez, il est beaucoup plus court. On l'appelle des apôtres parce que la tradition nous dit qu'elle nous vient des apôtres, mais aussi parce qu'il est composé de 12 article. Alors vous, article, vous pensez peut-être aux articles qu'on peut lire dans un journal, mais article, d'après vous, cela vient de quel verbe ? Quel verbe pouvons-nous faire avec le mot article ?
Articulé.
Bravo, articulé. C'est parce que les articles de foi, ils s'articulent les uns avec les autres. D'accord ? Comme dans notre corps, nous avons différentes articulations, mais on comprend que, par exemple, pour faire du sport, pour jouer au tennis, par exemple, j'ai non seulement besoin des articulations de mon bras, mais si je suis paralysé du reste, je ne peux pas vraiment jouer au tennis. Parce qu'il faut aussi que je puisse courir, que je puisse avancer, que je puisse reculer, que je puisse prendre suffisamment d'élan, peut-être ma raquette à deux mains ou pas, etc. On a besoin de tout pour pouvoir agir. Eh bien, pour la foi, c'est la même chose. J'ai besoin de toutes les articulations de la foi pour pouvoir croire en Dieu, pour pouvoir comprendre, j'ai besoin de mon intelligence, j'ai besoin de mon cœur parce que je dois aimer Dieu, le connaître, l'aimer, et je dois également pouvoir l'annoncer aux autres. Ça va pour ces premiers points ? Alors chantons.
Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien.
Je vais commenter le premier credo, celui des apôtres, il est très court. Nous le disons parfois le dimanche, mais plus souvent encore au commencement du chapelet. C'est le credo un peu court. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, et nous concluons, Amen. Si nous regardons le second, vous voyez déjà qu'il est beaucoup plus long, mais il commence de la même façon, je crois. Je crois, en latin, ça se dit credo. C'est pourquoi on intitule, que ce soit celui des apôtres ou celui de Nicée-Constantinople, ces déclarations de foi par le mot credo. Voilà ce en quoi je crois. Eh bien, lorsque vous allez accomplir dans l'Église votre profession de foi, vous allez dire « Je crois en ce que le Christ nous a transmis. Je crois en ce que l'Église m'enseigne. Je crois en ce Dieu dans lequel j'ai été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et si vous regardez ces credos, vous voyez que l'élément structurant du credo, vous voyez que j'en ai fait trois paragraphes. L'élément structurant, c'est le fait de croire en Dieu le Père, premier paragraphe, le fait de croire en Dieu le Fils, deuxième paragraphe, et le fait de croire en l'Esprit Saint, troisième paragraphe. Et si vous regardez le credo de Nicée-Constantinople, vous voyez qu'il est plus long, donc il va du coup approfondir un certain nombre de points, mais l'élément structurant, il est là. Je crois en un seul Dieu, le Père. Deuxième paragraphe. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ. Et on continue. Et on arrive à l'avant-dernier paragraphe. Je crois en l'Esprit Saint. Et enfin, je crois en l'Église. Et nous verrons que l'Église est intimement liée à l'Esprit Saint. Ça va pour ça ? Alors, vous avez déjà appris au catéchisme le mystère de la Sainte Trinité. Est-ce que quelqu'un ici peut nous expliquer le mot Trinité en parlant bien fort? Timéo, le mot, hein? Trinité.
Ça veut dire trois.
Qu'est-ce qui veut dire trois?
Trinité.
Alors, dans le mot Trinité, il y a une première racine tri, qui veut dire trois, comme dans triangle, figure géométrique à trois côtés, comme dans un tricycle, un vélo qui a trois roues, comme dans un trio, c'est-à-dire trois violons, par exemple, qui vont faire un trio, ou un trio de personnes qui vont chanter à trois voix différentes. Donc, tri nous dit bien le chiffre 3. Mais ce n'est pas tout. Trinité.
C'est d'abord Dieu.
Non, qu'est-ce que veut dire nité? Mélodie. Unité. Tri nous dit 3. Nité, c'est une contraction pour unité, et dans unité, qu'est-ce qui se cache comme chiffre? Le chiffre 1. Ce qui veut dire déjà que le mot Trinité nous dit 3 en 1. Quelle est donc la définition de la Sainte Trinité? Timéo?
C'est le Père.
Je crois en...
Le Père.
Non, c'est pas ça la définition, Mélodie. Je crois en un seul Dieu, en... trois personnes, et quelles sont les trois personnes?
Le Père, le Fils et le
Saint-Esprit. Donc je crois en un seul Dieu, en trois personnes. Et je vous ai dit, c'est ça l'élément qui structure le credo. Je crois en Dieu, sous-entendu le Père. Je crois en Dieu, le Fils unique de Dieu le Père. Je crois en l'Esprit Saint. Alors, nous disons au commencement du credo des apôtres, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Si nous ouvrons le credo de Nicée-Constantinople, cela commence ainsi, je crois en un seul Dieu, nous retrouvons le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, mais le credo de Nicée-Constantinople précise de l'univers visible et invisible. Alors, commençons par la toute-puissance de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, être tout-puissant? Levez le doigt si vous avez des idées et parlez bien fort. Timéo.
Ça veut dire avoir beaucoup de choses,
Ça ne veut pas dire avoir beaucoup de choses, parce qu'on ne dit pas qu'il possède beaucoup de choses. On dit qu'il est tout puissant.
Ah oui.
Mélodie ? Alors, il est grand aux yeux des hommes, oui, mais la puissance, qu'est-ce que ça veut dire, la puissance ? Avoir de la puissance dans son moteur, par exemple.
Oh, ça c'est facile.
Eh bien, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'on peut avancer beaucoup plus vite.
Oui, et d'après vous, en quoi Dieu est tout puissant ?
La force.
Parce qu'il a la force, oui, donc déjà, l'idée de puissance, c'est l'idée de force. Les puissants de ce monde sont ceux aussi qui ont le pouvoir. Quand on dit les puissants, ou quand la Vierge Marie dans le Magnificat dit il renverse les puissants de leur trône, c'est-à-dire il renverse ceux qui se prennent parfois la grande tête parce qu'ils sont les chefs du peuple. Dieu renverse les puissants de leur trône pour élever les humbles. Donc il y a une idée de force, une idée donc de pouvoir faire des choses.
Et d'amour aussi.
Bien sûr, tout ce qui est en Dieu est motivé par l'amour, mais puisque l'on dit qu'il est tout-puissant, on continue à nous dire qu'il est créateur. Alors faites le lien entre la toute-puissance de Dieu et la création. Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu donc est tout-puissant ? On ne dit pas qu'il est un peu puissant, on dit qu'il est tout-puissant, et parfois même on l'appelle le tout-puissant, pour dire qu'il n'y en a qu'un. Et on nous dit ensuite qu'il est créateur.
Ça veut dire qu'il fait tout à partir de rien.
Alors ça, c'est déjà un point très important qu'on a vu au catéchisme. Dieu, il fait tout à partir de rien. En cela, il est créateur.
Ça veut dire qu'il peut faire... Il peut faire une chaise avec rien.
Il peut faire ?
Une chaise avec rien.
Ah oui, alors s'il voulait faire une chaise, il peut faire la chaise à partir de rien, d'accord ? C'est-à-dire que Dieu, il est créateur, synonyme de créateur. Alors, ce n'est pas le synonyme, ça c'est la suite. Le créateur opère la création. Qu'est-ce que c'est que créer ? Donnez-moi un exemple. Fort, hein ? Oui.
Par exemple, je crée une colle.
Une colle, oui.
Ça veut dire mélanger
des choses.
Pour qu'on obtienne la colle.
D'accord. Et alors un synonyme, alors, dans ce sens de créer une colle.
Inventer,
voilà qui est un bon synonyme.
Fabriquer,
voilà qui nous dit la réalisation de la chose. Mais voyez-vous, le verbe créer, au sens fort du terme, au sens même propre du terme, ne peut avoir pour sujet que Dieu. Parce que nous ne créons rien finalement, nous prenons des éléments qui sont déjà là, qui existent, et que nous allons assembler. L'exemple que Jonathan nous a dit, créer une colle. En fait, on va inventer une recette que l'on va ensuite fabriquer pour faire une colle extrêmement solide, par exemple. Mais on a besoin de différents éléments pour la faire. Si nous prenons l'exemple de la chaise de Timéo, qui n'arrête d'ailleurs pas de bouger sur la sienne, eh bien, que faut-il pour faire les chaises que nous avons ? Il nous faut du bois, il nous faut de l'osier, et puis ensuite, il va falloir inventer, c'est-à-dire il va falloir que le sculpteur y pense la forme, il va falloir penser le confort, parce qu'il faut être quand même bien assis, il va falloir penser la solidité, parce que c'est pas le coup qu'elle soit jolie et qu'elle soit confortable si dès que je m'y assois, je tombe, voyez. Donc il y a tout un tas de choses à laquelle il faut penser. Mais ce ne sont des exemples que humains. Nous avons besoin de bois. Or, le bois, quand bien même j'aurais planté le gland qui est devenu un chêne, ben, je ne suis pas à l'origine de l'arbre. Dieu, il est créateur parce qu'il est tout puissant, c'est-à-dire il a tout fait, comme nous l'a précisé Timéo, à partir de rien. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Même le peintre qui va créer une œuvre, comme l'on dit, ben, il va plonger dans son imagination, dans son intelligence, dans le génie, c'est-à-dire dans ce don propre qu'il aura reçu de Dieu pour faire quelque chose. Mais il ne le fait pas à partir de rien. Il le fait à partir de lui-même, à partir de son histoire, à partir de sa culture. Donc quand on dit que Dieu est tout-puissant, ça veut dire que Dieu, il a tout créé à partir de rien. Et qu'est-ce qu'il a créé? On nous dit le ciel et la terre. Et le credo de Nicée Constantinople précise l'univers visible, donc que je peux voir avec mes yeux, et l'univers invisible. Donc créer le ciel et la terre, on pourrait dire dans un premier temps, Dieu crée le paradis et il crée la terre sur laquelle nous sommes. On peut dire également l'univers visible, ce que je vais voir avec mes yeux, mais également tout ce que je ne vois pas avec les yeux. Alors avant de penser avec les docteurs de l'Église, le monde visible c'est l'homme, le monde invisible ce sont les anges, il nous faut comprendre aussi que dans le monde visible dans lequel nous vivons, ici et maintenant, il y a des choses qui nous gouvernent et que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas le temps. Or le temps passe. Si je regarde ma montre, je ne vois qu'un mécanisme régulier qui fait bouger des aiguilles et j'ai appris à l'école à reconnaître un certain nombre de symboles qu'on appelle des chiffres et les différentes aiguilles. Je sais que la petite qui va vite, elle va me mesurer les secondes, puis la plus courte va mesurer les heures et puis la plus longue les minutes. Et j'ai appris à lire ce qu'on appelle l'heure. Mais le temps qui passe en tant que tel, je ne le vois pas. Je peux, le miroir le matin, voir sur moi-même les effets du temps qui passe. Mais les effets du temps qui passe, je peux voir parce que j'ai des rides, parce que mes cheveux deviennent blancs, ou parce que je grandis, mais en tant que tel, le temps, je ne le vois pas. De même pour les saisons, je peux voir que là, on est dans le printemps, que bientôt arrivera l'été, ou quand c'est l'hiver, il n'y a pas une feuille sur les arbres, je comprends qu'il y a du temps qui passe et qui se déroule. Mais je ne le vois pas, le temps. De même, en est-il de l'amour? L'amour, je peux le voir parce que je sens que j'aime telle personne et que j'en suis aimé en retour, ou parce que j'éprouve des sentiments à l'égard de mes parents, mais en tant que tel, je ne vois pas l'amour, et pourtant, il y a bien un amour. Donc, voyez, quand on dit que Dieu, il a tout créé, c'est-à-dire qu'il a créé des choses que l'on voit, le sol, le soleil, on voit le bois, les plantes, un certain nombre de choses, mais il y a aussi des choses qui existent réellement que je ne vois pas. Le temps qui passe, l'amour, chacun des sentiments que je peux également éprouver. Je peux voir qu'une personne est en colère, mais qu'est-ce que je vois? Que son visage est devenu rouge, qu'elle est très agitée, je dis ça, c'est la colère, par exemple. D'accord? Donc, Dieu, il est tout puissant parce qu'il a tout créé à partir de rien. Est-ce que vous avez des questions sur ce premier point? Donc, quand on dit qu'il a tout créé, c'est l'univers entier, du mouvement des étoiles aux différentes planètes, à la Terre ici-bas, du monde végétal, chacun des animaux, des petites graines, et il faut bien penser que la petite graine, elle a en puissance la possibilité d'être le grand chêne lorsqu'elle sera dans la terre. Vous voyez qu'une petite graine, elle est déjà en puissance un grand arbre. Quand on dit que Dieu est tout puissant, ça veut dire que Dieu, il peut tout faire. Rien n'est impossible à Dieu, dit l'archange Gabriel après l'Annonciation à la Vierge Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu, il peut tout créer. Donc, c'est lui qui a créé le monde et l'univers entier dans lequel nous vivons. Il nous a également créé nous-mêmes. Alors, pas directement, parce qu'il a créé le premier homme et la première femme, et ensuite, par voie de génération, voilà que chacun croit et se multiplie. C'est l'ordre du Créateur, c'est ce qu'il dit à Adam et Ève. Une fois qu'il a créé Adam et Ève, il dit maintenant croissez, ça veut dire grandissez, et multipliez-vous, sous-entendu faites donc des enfants. parce que les enfants font des enfants qui font eux-mêmes des enfants, etc. Et si nous prenons ce que nous appelons nos arbres généalogiques, nous comprenons que nous venons de nos parents, qui viennent de leurs parents, qui sont pour nous les grands-parents, qui viennent de leurs parents, qui sont pour nous nos arrière-grands-parents, qui viennent même des parents qui sont nos arrière-arrière-grands-parents, et ainsi nous remontons une chaîne, mais nous ne pouvons pas remonter ainsi à l'infini. Pourquoi ? Oui, autrement dit, il y a, je ne peux pas remonter à l'infini parce qu'il y a forcément un premier principe. Nous savons qu'il n'y a pas toujours eu des hommes ici-bas sur la Terre. Ça veut bien dire qu'à un moment donné, il y a une cause qui fait qu'il y a eu l'homme et qu'il y a eu la femme. D'accord ? Et que, nous dit le livre de la Genèse, ils sont créés tous les deux, hommes et femmes, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas que l'homme de sexe masculin qui ressemble à Dieu, ce n'est pas que la femme de sexe féminin qui ressemble à Dieu, c'est l'homme et la femme qui ressemblent à Dieu, créés à son image et à sa ressemblance. Dieu a créé l'homme. Et il faudra donc s'interroger, pourquoi donc Dieu a créé l'homme ? Pour quelle vocation et pour quelle mission ? Enfin, je termine en disant, quand on dit l'univers visible et invisible, pour un certain nombre de docteurs de l'Église, donc le monde visible, c'est tout le monde matériel, et le monde invisible, ça peut être tout l'esprit, notre intelligence, la raison, ce qui fait qu'on se distingue des seuls animaux, mais le monde invisible, ce peut être également le monde angélique. Dieu a créé tout d'abord les anges. Et les anges, pourquoi ressemblent-ils davantage à Dieu que nous les hommes ? Nous l'avons vu au catéchisme. Oui ?
Parce que c'est ses serviteurs.
Oui, mais nous aussi, on est mis sur la terre pour quoi faire ? Pour l'aimer et le servir, disons-nous. Donc on est aussi serviteurs de Dieu. Pourquoi les anges ressemblent davantage à Dieu que nous les hommes ? Alors les anges sont auprès de Dieu, certes, mais finalement, nous sommes nous-mêmes ici-bas sur la terre, bien souvent, nous nous éloignons de Dieu, mais Dieu est bien présent. Même si on ne le voit pas avec nos yeux de chair, nous sommes vraiment très proches de Dieu. Bien sûr, les anges davantage. Mais ce n'est pas encore la raison fondamentale. Quelle est la différence entre l'ange et l'homme ? On l'a vu au catéchisme.
Non ?
Ah ! Non, l'homme a un corps et une âme, mais l'ange n'est qu'un pur esprit. Et Dieu lui-même n'est qu'un pur esprit. Dieu, il n'a pas un corps matériel. D'accord ? C'est un pur esprit. C'est-à-dire, quand je dis Dieu est fort comme un lion, je ne suis pas en train de dire que Dieu est un lion. Je dis que la force que je vois dans le lion qui est en train de dévorer la gazelle, eh bien cette force, je peux également dire que Dieu est fort comme le lion. D'accord ? Ou quand je dis, ou telle personne, elle est rusée comme un renard. Je ne dis pas que c'est un renard. Je dis juste qu'elle est tellement maligne, cette personne, que je la compare au renard. D'accord ? Donc quand on dit, quand on parle de Dieu, il ne faut pas oublier que Dieu est un pur esprit. Il n'a pas de corps. Et si les anges ressemblent davantage à Dieu, c'est parce que comme Dieu, ils sont des purs esprits. Or nous sommes entre l'animal, parce qu'avec les animaux nous avons un corps matériel qui a des besoins, besoin de manger, besoin de boire, besoin également de se reproduire pour l'espèce. Mais nous sommes également proches des anges parce que nous avons en nous un élément qui nous distingue, qui va être notre intelligence. L'ange, lui, ce n'est qu'une intelligence. L'ange, il n'a donc pas besoin de manger pour vivre. Il n'a pas besoin de boire pour vivre. L'ange, il n'est pas mortel, parce que qu'est-ce qui est mortel en nous ? Notre corps. Notre corps, il est composé de cellules, et les cellules, elles vieillissent. Et en vieillissant, voilà que le cœur, notre corps, meurt. Ce qui n'est pas le cas pour l'ange. Ce qui fait que nous sommes ici, assis dans cet oratoire de Bétharam, ben, c'est notre corps. Parce que par notre intelligence, nous pouvons être, comme on dit, dans la lune. Je suis assis là, mais je m'ennuie, alors je pense à je ne sais quoi d'autre. À ce que je vais faire demain, à ma leçon de piano, ou à ce que je vais faire. Donc, du coup, là, je peux être assis ici, mais je peux être dans la lune. Ce qui veut bien dire que je peux être finalement à deux endroits en même temps. Mon corps est là, mais mon esprit imagine que je suis au bord de la plage, qu'il fait beau, etc. Ben, l'ange, s'il est partout à la fois, c'est parce qu'il n'a pas un corps qui fait que le corps, il est là, mais il ne peut pas être ailleurs. Vous savez, des fois, on dit « va voir ailleurs si j'y suis ». Ben, on peut toujours essayer, mais je ne peux pas être à deux endroits en même temps. Je ne peux pas être ici à l'oratoire et en même temps assis à la cuisine en train de prendre le petit déjeuner. Je ne peux pas. En revanche, l'ange, puisqu'il n'a pas de corps, il est partout. Il est aux côtés de Dieu, tout comme il est à mes côtés concernant mon ange gardien. Mon ange gardien, c'est comme s'il avait un œil droit sur Coralie, si on prend son ange, et l'autre œil dirigé vers Dieu. Alors pour nous, c'est pas très joli d'avoir deux yeux complètement désaxés, mais l'ange gardien, il voit constamment Dieu et il protège Coralie, ce qui est vrai pour chacun de nous et de notre ange. Et l'ange, pourquoi il est partout ? Et parce qu'il n'est pas délimité par un corps. Pourquoi est-ce que Dieu est toujours partout et qu'il me suit ? C'est pas que physiquement il me suit comme un petit chien me suivrait. Non, il est partout parce qu'il n'a pas de corps et du coup, en esprit, il est toujours là. C'est ce que Jésus nous dit. Hein. Quand deux ou trois vous êtes réunis en mon nom, je suis là au milieu de vous. Donc il est là ce matin, puisque nous sommes ici si près du Saint-Sacrement, et que nous parlons de lui, et que nous sommes ici en cette retraite pour lui. Donc nous disons, je crois en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui est tout puissant, créateur de l'univers visible et de l'univers invisible. Et cette création, je terminerai par là, on l'attribue à Dieu le Père. Non pas que Dieu le Fils n'ait pas participé à la création, non pas que Dieu le Saint-Esprit n'ait pas participé à la création, mais en disant que la création, elle appartient plus particulièrement à Dieu le Père, je suis en train de dire Dieu le Père, il a eu l'idée de la création. Mais pour la réaliser, comment cela s'est-il passé ? Dieu le Père, il envisage la création, l'ensemble de tous les êtres vivants, des végétaux, des animaux et de l'homme créé à son image et à sa ressemblance, et avant cela il a créé les anges. Donc Dieu le Père envisage la création, et que nous dit la Genèse ? Dieu dit, et cela se passe comme ce qui a été dit. Parce que voyez-vous, ici-bas sur la terre, je peux dire des choses et je ne tiens pas mes promesses, par exemple. Je dis quelque chose, oui, je serai là pour toi, je ne t'inquiète pas, je te le promets. Et finalement, je ne suis pas là. Ben Dieu, quand il dit quelque chose, il le fait. C'est ce que l'on dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc ce que Dieu le Père a pensé, celui qui le dit, c'est celui que l'on appelle le Verbe de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait le Verbe dans notre grand-mère ? C'est l'action. Le sujet, c'est celui qui va faire l'action. Si je dis Coralie danse, je suis en train de dire que l'action, c'est danser, et celle qui est en train de danser, c'est Coralie. Eh bien là, quand on nous dit « Dieu dit » et cela se passe comme ce que cela a été dit, c'est Dieu le Fils. Puisque Dieu le Fils, avant même de l'appeler Jésus, c'est son prénom humain, il est ce qu'on appelle en grec le logos, la parole, ou en latin verbum, le Verbe de Dieu. Et le Verbe, comme vous l'avez très justement dit Laetitia, c'est l'action. On peut dire que Dieu le Fils, c'est l'action de Dieu le Père. Le Père a pensé, le Fils il agit au nom du Père. Mais que fait donc l'Esprit Saint ? Eh bien, l'Esprit Saint qui procède et du Père et du Fils, quand on lit la Genèse, c'est ce qu'on nous dit « Et Dieu vit que cela était bon. » Qu'est-ce qu'il est en train de faire l'Esprit Saint ? L'Esprit Saint, il est là pour se rendre compte que entre ce que le Père a voulu Et ce que le Fils a fait, eh bien voilà que tout d'abord est conforme à la volonté du Père, mais que tout cela est bon. Et au moment de la création de l'homme et de la femme, l'Esprit Saint, il ne dit pas seulement que cela est bon, il dit, et Dieu vit que cela a été très bon. Nous sommes chacun sortis de la très grande bonté de Dieu le Créateur. Donc, si on peut dire que Dieu le Père est Créateur, il ne faut pas imaginer seul Dieu sur un nuage en train de créer le monde, mais c'est déjà l'œuvre et du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça va pour ce premier point ? Alors chantons.
Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien.